Bonsoir, Autre Radio, Autre Culture, émission sur l'art contemporain et le narcissisme, avec Mélanie Hébert, qui est contemplative. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Claude Costiou, peintre et professeur de sciences.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir Marion.
Bonsoir Claude. Nathalie Costiou, linguiste. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Et Fabrice de Ponfrache, amateur d'art et qui travaille également dans la communication.
Bonsoir.
C'est Nathalie qui a eu l'idée du sujet sur l'art contemporain et le narcissisme. Alors pourquoi une idée pareille ?
Oui, l'idée m'a semblé très logique par rapport à des discussions qu'on entend depuis, j'oserais dire, plus qu'un siècle par rapport à la dégradation de l'art en général. L'idée est née, à mon avis, à partir de la naissance de l'impressionnisme en tant que direction de l'art, et le symbole de l'art en tant que chose et vecteur dégradant de la société et de culture l'accompagne depuis. Eh bien, pourquoi narcissisme ? Parce qu'à mon avis, l'art est profondément narcissique en soi. Et le narcissisme est non seulement le sujet de la psychanalyse et de l'œuvre freudienne, mais aussi le sujet, à mon avis, du rapport de soi avec le réel. Le soi avec le moi et le moi avec le réel. Et bien là-dessus, je pense qu'il faut définir de quoi on parle, du point de vue terminologique. Qu'est-ce que c'est l'art et qu'est-ce que c'est le narcissisme ? Eh bien, j'aimerais citer, curieusement, l'un des philosophes qui était très sceptique quant à l'art. Et c'était Platon, donc ça fait longtemps que le scepticisme accompagne l'art, qui a dit à un moment que l'art n'est que l'apparence du réel. Et cette phrase est ironique, et c'est cette phrase-là, cette pensée-là, qui m'a fait penser, entre autres, de qu'est-ce que c'est le narcisse, en fait. Et si ce n'est quelqu'un qui est en contact permanent avec le réel et représenté par lui-même. Donc un artiste qui peint son œuvre en cercle fermé, en cercle vicieux, je dirais. Quelqu'un qu'on peut s'appeler presque génial. Parce que non seulement il a une pensée géniale, mais il a une manière géniale de la transmettre. Ce qui joint par ailleurs une pensée d'un autre philosophe qui a consacré beaucoup de lignes à l'art, Schopenhauer, c'est le protagoniste de pessimisme, qui a dit tout simplement que tout art, c'est l'œuvre de génie. Donc Narcisse, dans ce cas, est un génie, un artiste par excellence. Parce qu'il est dans son œuvre en permanence. Par contre, ce réel pour Narcisse, qui est lui-même, je vais citer un autre philosophe et psychanalyste français, Jacques Lacan, ne serait-ce qu'un horreur permanent pour lui, qui l'amène à sa mort. Ce qui a dit Lacan à un moment que le vrai réel, non pas les réalités, mais le réel, c'est un horreur. Donc, c'est quelques petites pistes que j'aimerais apporter à notre belle table pour qu'on puisse en discuter tous.
Alors, de toute façon, le narcissisme, il est dans chaque artiste, que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de la danse.
C'est ce que tout le monde pense, en effet.
Alors, pourquoi spécialement l'art contemporain ?
Encore une fois, je dirais que c'est ce que les contemporains voyaient dès le début du XXe siècle, dans l'art contemporain à eux-mêmes, à leur époque. Parce que normalement, l'art est censé de représenter le réel. Encore une fois, c'est, je dirais même pas Platon, mais Socrate encore, a achevé l'espérance de l'art. Parce qu'il a apporté la raison dans les discussions humaines qui n'étaient pas là avant. Donc la raison, en fait, il coupe l'espérance de vie de l'art, parce qu'il essaie de l'expliquer. Tandis que l'art n'est pas censé d'expliquer, mais uniquement de représenter. Alors la question, qu'est-ce qui représente l'art contemporain ?
Oui, si tu dis que l'art représente, on ne peut pas dire qu'il est du côté du réel, on peut dire qu'il est du côté de l'image, de l'imaginaire.
Oui, oui
hein, donc exactement. Le réel, c'est pas ça.
Mais la mention du narcissisme au niveau de l'art au début du XXe siècle, ça vient pas plutôt de la montée de la psychanalyse, justement avec l'arrivée de Freud et compagnie ?
Non, c'est avant.
Oui, non, mais
c'est par exemple Baudelaire, à la fin du XIXe siècle,
qui... Ah oui, mais c'est dans l'air du temps, c'est ce que je veux dire.
Qui critique la peinture de Manet, et qui dit qu'Olympia, elle est triste, qu'elle a des grands pieds, que c'est une horreur, et que c'est la décadence, que c'est une image décadente. Et c'est le début, enfin, dans l'idée de l'art contemporain, c'est la mort de l'art. Et la mort de l'art, après, dans l'art contemporain, on va en parler beaucoup, mais c'est une idée qui est redondante, hein, c'est la mort de l'art. Par contre, à la même époque, il y avait Zola, qui lui considérait que la peinture de Manet, que l'Olympia, justement cette tristesse du personnage, hein, du déjeuner sur l'herbe de Manet, était justement une renaissance de la peinture. Et que cette tristesse était un commencement. Alors pour rejoindre un peu les propos de Natalia, le problème il est, pour citer un autre philosophe, dans la perception de la réalité. Natalia a commencé par Platon, l'apparence de l'apparence de l'apparence. C'est-à-dire, c'est une intuition géniale. C'est une intuition géniale parce que, comme le disait Annie enfin également, le problème avec le réel, c'est que peindre la nature, la représentation, bon, il y a eu d'abord la peinture sacrée, l'hommage aux dieux, mais dans les peintures, par exemple, de la nature ou les portraits, on regardait avant tout, non pas le style, mais la perfection de la représentation. Mais petit à petit, et jusqu'au XIXe siècle, et notamment par le romantisme, on s'est aperçu que la notion de style et que chaque personnage ou chaque nature était représenté par la subjectivité même de l'artiste.
Et encore une fois, la notion de l'art contemporain, aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est une notion par rapport à la génération qui parle de cet art. Par exemple, nous ne pouvons pas malheureusement réunir ici les contemporains de Manet, hein, ou de Jérôme Bosch, etc. Mais pour eux, leur art contemporain était, je suis sûre, aussi décadent. Et cela à partir de Socrate.
Alors c'est amusant parce que Jean-Paul Huchon, dans son livre « Sur l'être vivant », qui est paru en 2003, qui dit que l'œuvre d'art et l'écoute analytique sont un miroir du narcissisme, c'est-à-dire un instrument de séduction, et que l'on n'est jamais séduit que par soi-même.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Alors après, bon, il y a les découvertes, la lecture de Kant, et puis pour simplifier, parce qu'on peut rentrer bien sûr dans le débat analytique, mais je pense que l'art ne supporte pas l'analyse. Bon, alors je vais peut-être m'expliquer plus tard, parce que quand même, j'aurai peut-être des réactions.
Peut-être même une petite explication pour ça, parce que l'art c'est une œuvre artificielle. Le mot artificiel vient du mot art, et on ne peut analyser qu'un être vivant. Donc l'art, c'est la représentation.
Vous employez le terme analyse dans quel sens ? Si c'est dans le sens psychanalyse, la psychanalyse n'a rien à voir avec l'art.
Oui,
strictement rien.
Ça peut être par exemple l'analyse de Léonard de Vinci par Freud. Hein. Voilà.
Oui,
l'analyse, elle peut s'entendre comme
pas,
ça,
c'est pas une
qui est un délire merveilleux.
Mais... Léonard de Vinci, c'était une personne. Un personnage.
Oui.
Mais analyser l'œuvre, c'est une autre chose.
Mais Freud, il a bien analysé l'œuvre.
Ouais. Mais ça ne se fait pas. La psychanalyse, c'est éminemment le langage d'un sujet qui vient se confier. Ça n'a pas à voir avec l'art. Donc je me demandais si tu parlais de l'analyse, analyser l'art, comme on analyse plein de choses. C'est-à-dire pas du tout à voir avec l'inconscient, parce que je ne vois pas comment, à partir d'une œuvre d'art, on peut parler de l'inconscient.
Non, mais l'essai de Freud...
Ça, c'est amusant parce que justement, c'est le problème en histoire de l'art actuellement, depuis pas mal d'années, où on essaye de traduire des œuvres d'art, que ce soit par exemple le cri de Munch et compagnie, on essaye de les traduire justement par la psychanalyse. On essaye, en regardant la toile, d'atteindre l'inconscient de l'artiste, etc. Alors justement, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
Je suis tout à fait opposée à cette démarche qui est une illusion, qui est un semblant, qui est tout ce qu'on veut. Je suis complètement opposée à ça. Qu'on se serve d'une œuvre d'art pour dire des choses de soi, parce que ça représente quelque chose. C'est une image qui nous dit quelque chose en tant que sujet, qui nous touche. Oui, mais on parle de soi, on ne parle pas de l'œuvre d'art, puisque quelqu'un va en parler complètement différemment. On parle toujours de soi quand on mêle la psychanalyse à ça. Ça n'a pas à voir pour moi.
Oui, surtout. Mais la Mona Lisa, analysée par Freud, bon, est-ce que c'est une lecture de Freud ? Est-ce que c'est... Bon, vous voyez, on rentre là, donc un peu plus tard, au début du XXe siècle.
Freud parle
dans
de lui-même.
L'analyse, donc comme disait Marion, donc est-ce que ce n'est pas le départ avec Freud, hein, qui fait qu'on peut commencer à parler d'analyse et puis bon, peut-être de narcissisme, hein, à partir de l'analyse par soi-même. Bon, c'est vrai que le maître à penser de la psychanalyse, Freud, nous a aidés, peut-être mis en erreur.
Bon, ça, oui, et pourtant, je dirais que je crains qu'on confonde un petit peu la psychanalyse et la notion de narcissisme, parce que le mythe de Narcisse est né largement avant la psychanalyse. Il est contemporain à l'art dont on parle.
C'est un mythe dont se sert la psychanalyse, exactement, mais c'est pas, et, dont on peut se servir pour parler de l'art, mais ça n'a pas à voir. Enfin, le narcissisme, bien sûr, puisque quand il y a une œuvre d'art, il y a subjectivité. C'est-à-dire celui qui peint, celui qui fait de la musique, celui qui danse, donne quelque chose de lui, de lui en tant que sujet. Bon, on dit que c'est une sublimation, mais bon, ça n'a pas à voir. C'est des domaines qui se servent un peu des mêmes termes, mais c'est pas les mêmes, ça ne veut pas dire les mêmes choses.
Mais il faut quand même aussi regarder le rapport étroit entre, là je parle des personnages, entre les psychanalystes et puis les artistes. Il y a toujours eu une intimité. Bon, Nathalie parlait de Jacques Lacan, enfin tout à l'heure. Il y a eu une intimité entre Jacques Lacan, par exemple, et Salvatore Dali, qui à l'époque parlait de la paranoïa constructive. Bon, je ne sais pas.
Bon, mais si je dirais que les psychanalystes s'intéressent aux artistes et beaucoup plus que vice-versa.
Oui, donc il y a eu beaucoup de discours, enfin, entre Salvatore Dali, par exemple, et puis Lacan, et la place, enfin, justement, de l'art par rapport à la psychanalyse. L'art doit être toujours en avance. Et donc, en fait, elle ne peut pas être analysée parce qu'elle explique des choses, elle anticipe enfin, des choses enfin, qui peuvent arriver. Mais ça n'empêche qu'il y a une attirance des psychanalystes enfin, vers les artistes, et notamment enfin, chez Lacan et Salvatore Dali, qui n'a pas été vraiment d'ailleurs constructive.
Ben oui, mais pourquoi les analystes sont aussi intéressés par les peintres ou par les artistes? Parce qu'eux-mêmes sont narcissiques.
C'est peut-être des cas d'école pour eux.
C'est peut-être des cas d'école.
Oui, je ne crois pas qu'ils soient plus intéressés que d'autres.
Il y avait, toujours Jean Peluchon. Moi, c'est pas que je l'adore, cet homme, mais bon, il m'a interpellée au fond de moi. Mais il dit « Le caractère séducteur de l'analyste réside dans le fait qu'il révèle son auto-séduction fantasmatique à l'analysé. Cette objectivation pour autrui dans le contexte analytique le justifie et la valorise. C'est la critique de Wittgenstein quant à la séduction intellectuelle de la psychanalyse parente de l'esthétique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Oui, ça peut être ça et plein d'autres choses encore.
Alors, bon, d'abord, c'est très brillant. Hein. Et puis, alors, je vais revenir à Kant. Et puis, le phénoménal et le nouménal. Alors, la perception, donc pour rester quand même tout près hein, de la définition de Jean Peluchon, hein, donnée par Marion, il y a quand même toujours un... Chez le psychanalyste, ce qui l'intéresse, c'est le sujet.
Non. C'est souhaitable.
Et la méthode doit être scientifique. Ça va encore ? Toujours ? Bon. Bon. Mais le sujet ne peut pas être objet.
C'est souhaitable encore, bon. Mais parfois il l'est quand même.
Alors, chez Kant, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène, ce qu'on appelle le nouménal, c'est-à-dire le réel en soi. Le réel en soi, c'est-à-dire la perception de l'autre, mais la perception de l'objet également. Et ensuite, bon, le phénoménal, qui est la perception, alors là, bon, on reprend Descartes, c'est clair et distinct des choses. Dans le nouménal, il y a séduction entre l'appréhension de ces perceptions personnelles, et qui doivent être maîtrisées ou travaillées enfin, chez le psychanalyste, et sans doute d'une manière, à mon avis, scientifique. Et puis l'artiste, qui lui, ou... travaille sur la représentation et à ce moment-là et soit qu'on arrive par exemple à l'impressionnisme arrive à avoir une perception de la réalité ou dans les siècles précédents par exemple toute la Renaissance dessine pour lui ce qui est effectivement la réalité. Ouh. Et puis tout ça il y a une déliquescence de tout ça au fur et à mesure jusqu'au 19e siècle jusqu'au romantisme après avec la psychanalyse et on arrive petit à petit au fait que la réalité ne peut pas être abordée. Alors là je sais pas si je peux encore bon elle peut pas être abordée parce que les sciences évoluent très vite et parce que l'art n'arrive plus à dire à anticiper sur.
Je vois de quoi.
Et là, on entre un petit peu dans l'art contemporain. On commence, à mon avis, c'est le début.
Nous étions en train de parler de l'oubli de l'être, en fait.
Il n'y a pas d'oubli de l'être au niveau des artistes.
Non. Au niveau des artistes, peut-être
il
pas justement.
Quand même qui se penche sur philosophe. Soi. C'est Cocteau qui dit oui. Qui se penche sur soi, aide les autres, révèle, divulgue et touche Dieu.
Exactement. Oui. Et là, nous sommes plein dedans.
Et donc, scientifique pourrait dire pareil.
Dans cette guerre, je dirais, entre les philosophes et les artistes. Parce que les philosophes dont tu parles et qui tu cites, à partir des Grecs, on est d'accord, sont dans l'oubli de l'être, jusqu'à la disparition de l'être chez Nietzsche. Presque absolu, c'est-à-dire il n'est plus nécessaire. C'est exactement la tendance inverse chez les artistes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Moi, je n'ai pas tout compris.
Je ne vois
pas du tout la chose de cette façon-là. Oui.
Chez Nietzsche, jusqu'à la Renaissance, enfin du philosophe artiste.
Alors, on parle souvent de Duchamp. Comme un des grands peintres qui a joué justement sur ces valeurs du narcissisme. Alors de quelle manière? Et bien justement parce qu'il a utilisé le miroir qui n'a plus comme fonction de faire illusion, mais de faire réfléchir. Donc là, nous sommes en plein dans le narcissisme avec Duchamp. Et alors c'est d'autant plus intéressant que beaucoup d'artistes qui ont été postérieurs à Duchamp se sont inspirés énormément de lui.
Fabrice, qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que vous en pensez?
La suite de Duchamp a été son assassinat en 1965 par le groupe des Nouveaux Réalistes, et qui ont voulu passer à une autre époque et qui ont dit que le ready-made était du noir et qu'il fallait revenir un petit peu à un art qui représentait quelque chose. Et puis ils avaient envie de raconter des histoires. Et tout ce groupe des Nouveaux Réalistes ont permis d'avoir un autre type de peinture. Ça a été une évolution comme il y en a eu énormément dans la peinture. Je pense, c'est pour ça que je pensais, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il n'y a jamais eu de dégradation ou de mort, etc. Il n'y avait rien de funéraire dans l'art. Il y a des évolutions successives qui correspondent à des époques, à des mutations de technologie, des mutations de tempérament, et même, je pense, au développement intrinsèque du cerveau qui, lui-même, va de plus en plus loin dans ses performances, comme d'ailleurs les sportifs ou autres vont de plus en plus loin dans leurs performances et découvrent en permanence de nouveaux champs d'investigation. Mais je n'ai jamais vu, moi, dans l'art, je dirais même plus l'art est ancien, plus l'art est vieux, et plus il est recherché, plus il est encore apprécié. Donc, moi, je ne vois au fil des époques que des évolutions positives qui permettent à chacune d'elles d'aller plus loin dans des nouveautés, pour les époques, pour les nouveautés, et qui permettent justement de construire les époques nouvelles dans lesquelles chacun vit à ce moment-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je pense que l'art et les artistes sont ceux qui donnent peut-être le plus d'impulsion à nos sociétés. Et ce sont eux qui sont les avant-gardistes des nouvelles tendances, des nouvelles notions, qui vont toujours un peu plus loin que ce qui existe et qui décryptent un petit peu à l'avance l'évolution de la société, qui anticipent en permanence l'évolution de la société. Et ce sont des gens extraordinaires parce qu'ils nous montrent des chemins qui, au début, sont tellement incompréhensibles pour ceux qui sont leurs contemporains, qui vivent avec eux, qu'ils les prennent pour des fous, qu'ils n'arrivent pas à vendre leur production, et que 5, 10, 15 ans, 20 ans après, voire Van Gogh encore plus, on se dit mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est des génies, et puis ça vaut des sommes absolument incroyables alors qu'ils ont crevé la faim toute leur vie. Donc ce sont des défricheurs de société, ce sont des avant-gardistes de la société, on leur doit tout.
Et ce sont des gens qui prennent énormément de risques.
Et ce sont des gens qui prennent formidablement du risque, puisque le risque est tel qu'ils ne veulent pas transgresser leurs croyances au profit de faire de l'art, je dirais, alimentaire, qu'ils restent purs et durs dans leurs recherches, dans leurs signaux divins dont ils sont les catalyseurs et qui leur permettent de trouver en permanence ces trouvailles évolutives de la société. Et donc, ces artistes-là, on leur doit la vie d'aujourd'hui, on leur doit la vie de demain, on leur doit toute cette évolution sociétale. Et donc, voilà, c'est alors, ils sont forcément narcissiques puisqu'ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes et qu'il y a une sorte d'introspection. Je comprends que d'autres, certains veulent s'y intéresser parce que beaucoup de psychanalystes n'ont pas réussi à rentrer dans le fil rouge de ce qu'ils sont tellement ce sont des natures complexes puisque ce sont des condenseurs
beaucoup,
de...
Beaucoup viennent rencontrer les psychanalystes. Moi, je ne vois pas pourquoi on lit tellement l'art et la psychanalyse ce soir. Ce sont de chaînes, de choses...
Non, la question que je pourrais te poser, Nathalie, est de savoir est-ce que dans la population des psychanalystes, il y a plus d'artistes que d'autres professions ? Est-ce qu'elle est surreprésentée ?
Ou je dirais que dans mon cercle d'amis, il y a des collègues, des psychanalystes qui écrivent, qui peignent, qui jouent de la musique, qui dansent, oui.
Est-ce que leur clientèle est surreprésentée en artistes par rapport aux autres métiers ?
Si, si. Il y a beaucoup d'artistes.
Un petit peu ?
À Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes quand même qui, je pense, consultent plus que d'autres métiers. Hein.
Bon.
C'est normal, c'est un métier d'introspection, c'est un métier de réflexion, c'est un métier...
Mais encore une fois, il y a aussi le problème de la création. Quand vous entendez parler à un écrivain, ou un peintre, ou un musicien, la création, c'est de la douleur. Et parfois, la douleur est tellement importante qu'on a peut-être besoin aussi d'aller voir quelqu'un pour en parler et pour...
Parce qu'ils n'arrivent pas à accoucher leur œuvre, ils sont incompris, voilà. Et ils ont besoin de quelqu'un qui les rassure un peu pour leur dire qu'ils ne sont pas totalement fous, ou qu'ils ont des espérances de pouvoir aboutir dans leur réflexion, dans leur recherche, et que, effectivement, leur art n'est pas, c'est pas parce qu'il n'est pas acheté, qu'il n'est pas signifiant pour la société, qu'il ne marque pas une évolution, et que, justement, il y a une incubation dans ces signaux nouveaux qu'ils créent, pour le bienfait de la société et qu'il faudra faire effectivement une reconnaissance plus tardive pour qu'ils soient enfin eux-mêmes et reconnus.
Oui, et puis en même temps, il va surtout y avoir des artistes qui refuseront absolument de faire une psychanalyse.
Et
parce
pourquoi ?
Parce que, justement, ils auraient l'impression, par leur névrose, d'abandonner, de ne plus avoir cet esprit créatif.
Exactement. C'est donc, la crainte ça, c'est, principale de venir consulter. Et pour répondre encore une fois à Fabrice, sauf que la psychanalyse, il n'est pas là pour rassurer, c'est ça le problème.
Oui.
Dans ce cas, il faut faire plutôt une thérapie, une autre démarche, parce que l'analyse s'occupe d'autre chose. Mais si on revient, on s'éloigne un tout petit peu de la psychanalyse, qui n'est pas forcément autour du narcissisme, et on revient au sujet du narcissisme, dont le mythe qu'on lit à propos de Narcisse, il se regarde, son reflet dans l'eau, parce qu'il se trouve beau. Il ne peut pas détourner son regard, et finalement il reste immuable comme ça pendant toute sa vie, éternellement, pendant une éternité, parce que forcément il est beau. Donc, la question simple, hein, est-ce que vous trouvez l'art contemporain à nos jours, notre art contemporain, beau ? Est-ce qu'on peut appliquer...
Mais la question n'est pas là.
Oui. Non, pas non. Du tout.
Pas du tout, non. Le beau et l'art, ça passe.
C'est ce qui sera beau demain n'est pas ce qui est beau aujourd'hui. Oui. Il y a des signaux qui demandent énormément d'années avant d'être reconnus. Et il y a une adaptation qui se fait sur ces signaux qui sont nouveaux, qui sont créés par ces modes de peinture. Ça prend souvent beaucoup de temps. Au début, c'est pas forcément beau. Quand je vois les psycho-objets de Renaud, quand je vois ces pots avec lesquels il a commencé au début, ou etc., c'était une incompréhension totale. Et puis, en 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont devenus des symboles totalement représentatifs de la société. Et un simple pot qui n'avait pas de représentation, ou tout au moins à l'époque, il y a 40 ans, on se disait « Mais attends, il fait du pot une œuvre d'art, c'est complètement incroyable !» Et aujourd'hui, le pot a une telle reconnaissance que Beaubourg en a installé un depuis plusieurs années devant son entrée, à 4 mètres de hauteur, sur un piédestal monumental, un pot doré qui fait 3 mètres de haut, 2 mètres de diamètre, tellement c'est devenu ce simple pot, un symbole de reconnaissance de l'art contemporain.
Oui, alors là,
c'est
moi,
comme
je pense
ça qu'évoluent
faut...
les signaux.
Mais je pense que là, il faut revenir à la mort de l'art, parce qu'on avait le plus bel exemple, c'était Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, à la fin de sa vie, il a arrêté de peindre, et il a dit qu'on n'avait plus rien à peindre, que c'était la mort de l'art.
Oui, mais ça, c'est du narcissisme. Hein,
c'est, à voilà,
lui,
tout à fait.
À part lui, il
s'est
plus
mis,
rien.
Il s'est mis, oui, à part lui, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment...
Toujours bon. La fin de la vie que quelque chose décline et que la fin de la vie, on peut dire qu'il n'y a plus rien.
C'est parce pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est exilé dans une autre culture aux États-Unis. Il est devenu, d'ailleurs, américain.
Il a commencé à jouer aux échecs et il a dit à tous ses amis, moi, j'arrête de peindre et puis je joue aux échecs parce qu'il n'y a plus rien à peindre. Et c'est le phénomène un peu que racontait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire en début de siècle, cette décadence, cette mort de l'art, et qui aujourd'hui existe encore dans l'art contemporain. Et c'est quand même formidable d'entendre dans une émission où on parle d'art, de dire qu'on ne peut pas faire de liaison entre le beau et l'art. Parce que quand même, on va voir Rembrandt, on va voir des peintures classiques, etc. On estime que ces œuvres, elles sont belles.
Aujourd'hui,
mais bon, ils sont 8 millions par an, 8 millions par an de spectateurs qui vont au Louvre.
Tu trouveras la même chose pour l'art contemporain. Je veux dire, t'auras des millions,
non,
des millions de gens qui vont
problème,
s'intéresser à ça.
Le problème, c'est qu'on arrivait à un tel
Phénomène moutonnier n'est pas une sorte de reconnaissance absolue.
Non, mais on est arrivé à un tel excès que maintenant, ce qu'on reconnaît, c'est non plus la beauté, mais c'est la laideur. Et que le peintre contemporain, par exemple, peut s'exposer.
Mais ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'il est ? Alors là, c'est un autre débat. Tu ne peux pas juger quelqu'un sur ses critères.
C'est vraiment la laideur qui le peint.
Elle est revendiquée par le peintre.
Vous avez quand même des tableaux de Goya qui sont épouvantables, avec des massacres, etc. Non, je suis désolée, il y a des tableaux de Goya.
La tête de mort, par exemple.
C'est dur à regarder. N'empêche qu'on peut être quand même saisi, avoir des impressions très très fortes devant ces tableaux.
Tout à fait, mais on ne peut pas enlever la beauté.
On ne peut pas dire que ça soit beau. Non.
Tandis que dans l'art contemporain, on peut aller jusqu'à la nullité, par exemple, et la revendiquer.
Oui, mais la nullité, tu l'as eue d'à tout.
C'est quoi la nullité en art contemporain?
Eh bien, c'est l'artiste qui revendique qu'il n'y a plus rien à peindre, et que de toute façon, je vais donner un exemple. J'ai un ami, artiste contemporain, qui est reconnu, numéro de Sirette, etc., qui est reconnu par eux. Parce qu'il y a la reconnaissance de l'artiste. Je ne lui ai pas demandé, donc je ne vais pas donner son nom ce soir, parce que je n'ai pas l'autorisation de pouvoir le
donc
citer.
Donc on ne pourra pas juger vraiment tes propos.
Si, parce que je te les donnerai après l'émission. Et puis, le rêve de cet artiste, c'était... Il a acheté des avions toute sa vie. Des morceaux d'avions, des ailes, des moteurs, des cabines. Et puis, il peignait sur les ailes, sur les cabines, sur les hélices. Et il peignait des choses qui étaient de l'ordre de la communication. C'est un artiste contemporain, de la communication. Parce que quand on est dans l'art contemporain, on est dans la communication. Quand on est chez Andy Warhol, par exemple, on est dans le monde de la consommation. Et la soupe Campbell, etc., on est dans le monde de la consommation. Avec l'art contemporain, c'est pour ça que je pensais que petit à petit, on allait y arriver. On est dans le monde de la communication, c'est pour ça que Fabrice, il est là aujourd'hui. Parce que, justement, l'art contemporain, c'est le monde de la communication, avec tout ce qu'il y a de virtuel, etc. Pour l'exemple que je voulais citer, son rêve, donc, c'était de peindre un avion, de l'envoyer dans le ciel, de telle manière que sa peinture, elle disparaisse complètement et qu'il redécolle, telle que avec la peinture qui a disparu dans le ciel. Voilà. Oui. Donc, au niveau du principe, vous voyez, c'est de l'art contemporain, mais c'est, en même temps, pour lui, il revendique cette nullité dans le sens où il n'a rien peint du tout, mais au niveau spéculatif, c'est-à-dire du discours de l'artiste, il réalise quelque chose qui est génial. Dans l'idée. Voilà.
Oui, c'est plus une idée. Ça fait trace de quelque chose. Comment c'est mis en scène? C'est une représentation théâtrale.
Et c'est une installation comme
une
autre.
C'est une installation, oui, absolument. Oui.
Et ça me paraît très cohérent, cette démarche.
Oui. Dans l'art contemporain, tout à fait.
Je ferai peut-être à allusion à une pensée de Schopenhauer, par la crainte de la citer pas complètement justement, qui a dit que l'art n'est pas fondé sur la conscience, mais sur le rapport immédiat avec le monde. Le rapport immédiat.
Oui, apparemment, le nul pourrait être lié, par exemple, à la lune.
Oui. Où le nul, il peut être considéré aussi par rapport à la mort de l'art. À la mort. pour chercher un nouveau commencement.
Hegel l'a dit d'ailleurs très...
Parce qu'il y a le pathos et l'éros, toujours. On va vers la mort pour chercher justement quelque chose de nouveau.
Pour moi, l'art ne peut pas mourir.
Je suis entièrement d'accord. Il n'y a jamais de mort de l'art.
Il y a la mort d'un mouvement, mais il n'y a pas la mort de l'art.
Il y a la mort d'un peintre et qui pense
chaque chose créée permet de créer une autre chose sur ce qui a été fait et d'évoluer et d'avancer et de trouver de nouvelles voies, de nouvelles pistes.
Et c'est grâce à la mort qu'il y a de la vie à nouveau et autrement et autre chose.
Mais on n'a jamais parlé autant de la mort de l'art que depuis deux siècles.
On en parlait avant également.
L'art, c'est la même chose.
On en parlait également.
C'est profane.
La Renaissance, pas du tout.
Ce n'est pas du tout.
Et au niveau de la peinture sacrée, par exemple, pas du tout.
Moi, j'aime bien cette direction, parce qu'on parle, du coup, on fait la preuve de la vie éternelle de l'art en disant que la création fait preuve de la vie. Et je me pose la question, est-ce que la création et l'art sont synonymes, forcément ? Est-ce que l'art ne doit pas être justifié par quelque chose de plus important qu'une simple création ?
Est-ce que dans le mot création n'est pas inclus un petit peu le mot d'art ?
Est-ce que dans...
Je dirais l'inverse, plutôt. La création est inclue dans l'œuvre d'art, mais pas que la création.
Toute création ne veut pas dire qu'elle a une valeur artistique.
Je suis d'accord avec ça.
Il faut déjà, pour qu'il y ait une valeur artistique, pour que ça soit de l'art,
oui.
Que la personne ait déjà passé des seuils et des seuils et des seuils pour arriver sur une espèce de montagne,
là,
en haut de
la
montagne.
Là, c'est quand même aussi, pour reprendre ce raisonnement, la reconnaissance par un certain nombre de personnes de ce qui a été créé comme étant une évolution au niveau de ce qui était existé précédemment. L'art a ce niveau de reconnaissance par les autres qui permet ensuite d'autres évolutions. Mais c'est sûr que créer quelque chose n'est pas forcément artistique et toute création n'est pas artistique ou ne fait pas partie du domaine de l'art.
Là-dessus, on est d'accord.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, pas du tout. Dans l'art contemporain, on peut dire le contraire. On peut dire exactement le contraire. On peut dire que tout le monde est peintre.
Non, justement.
On peut dire qu'il y a deux grandes écoles dans le milieu, comment dire, dans l'art contemporain. C'est le discursif ou le spéculatif. C'est-à-dire que tout est dans le discours. Alors, je ne vais pas vous rappeler, je ne sais pas, les années 80, Yves Klein, etc., où il mettait aucune œuvre dans une pièce blanche, enfin, où justement, il n'y avait plus rien à représenter que simplement l'espace lui-même, et qui devenait parole. Et c'est la parole qui faisait justement l'art, et que la création était là. Bien sûr, Yves Klein, il avait fait ses anthropomorphismes auparavant, et il avait découvert le bleu Klein. Mais tout était dans le discours. Et il y a cette école dans l'art contemporain qui est celle du discours, quel que soit l'objet qui va être créé.
C'est une partie.
Et c'est depuis les années 70.
Mais ça, c'est minuscule.
C'est pas si minuscule que ça. C'est ce qu'on appelle.
C'est anecdotique.
Eh bien, je pense pas du tout. Et ça devient justement ce côté spéculatif.
C'est pas ce qui reste de l'artiste Klein quand on a vu son exposition l'an dernier à Beaubourg, où vraiment l'ensemble de ses créations et l'évolution de ses créations ont montré tout au long de sa vie une prodigieuse créativité, un prodigieux chemin qui effectivement peut être mis en discours. Mais les traces qu'il en reste sont sublimes.
Oui. Mais je crois que dans l'art contemporain, on peut, par exemple, moi j'imagine bien, dans l'art contemporain, une œuvre d'art, par exemple aujourd'hui, imaginez, les gens qui nous écoutent, on parle de choses à voir en parlant. Pour moi, c'est de l'art contemporain. On parle de choses, alors d'images...
Il y a Kossuth, effectivement, qui fait de l'art avec des mots.
On parle d'images à voir.
C'est une représentation visuelle.
Bon.
Joseph Kossuth, on est entièrement d'accord.
Mais n'est-ce pas, on est en train de faire de l'art contemporain.
Vous avez Ben.
Oui.
Ben
qui a réussi.
Oui, tout à fait.
Pour moi, c'est, depuis très longtemps, je trouve que Ben, c'est un filou. Mais bon, parce qu'il a réussi à vendre son écriture comme de l'art. En fait, Ben, c'est ça. Moi,
avait fait ça avant lui?
Eh bien, j'attends.
Je peux te dire.
Il y a une étape.
Les hommes préhistoriques.
Il a popularisé.
Et les hommes préhistoriques,
c'est de l'art. Enfin, ils n'écrivaient pas, ils faisaient des dessins sur certains murs.
Ils écrivaient aussi, parce que pour eux, c'était l'écriture, c'était leur écriture à eux, c'était leur langage écrit.
De toute façon, au niveau de l'art pariétal, il y a des signes, il y a des signes très particuliers sur les qui ne sont pas dans les peintures, enfin qui sont à côté des peintures avec des points, des traits et autres qui peuvent être pris pour une écriture. Mais bon, on n'arrive pas à la traduire maintenant.
Voilà. Et ça, c'est une très bonne question.
Il y a tout un état d'esprit dans l'art de Ben. Je ne veux pas spécialement être son porte-parole, mais je veux dire qu'il a amené une certaine frivolité dans l'art. Il a amené un langage différent. Il s'est fait remarquer par tout un tas d'installations très très contemporaines, très vivantes, très actuelles, très qui ont séduit énormément de monde. Et je pense qu'il a donc une part entière dans l'art. Il restera d'ailleurs pour avoir créé un champ particulier, avoir investi un champ particulier de création, peut-être pas majeur, je ne sais pas, je ne peux absolument pas le juger, mais c'est un artiste qui a apporté un petit plus. En ça, je pense que c'est intéressant ce qu'il fait.
Bah, il fait partie de ces artistes quand même qui sont avec un narcissisme exacerbé.
Pas plus
son
que les
style,
autres.
Son style tous, même.
On disait tout à l'heure son du style, narcissisme.
Son style même d'écriture avec le point sur le i. Enfin, pour le point, le rond sur le i est un exemple même chez tous ceux qui étudient l'écriture du narcissisme chez quelqu'un. Et lui, il le vend très très bien et de manière très simple finalement.
Ça me donne envie.
Si les gens l'achètent, c'est qu'il y a une reconnaissance dans ce signe, dans les signes qu'il fait. Donc, il répond à l'expression de. Parce qu'il a produit énormément, donc il répond à l'expression et à une demande de milliers de personnes qui ont acheté ces milliers d'œuvres. Donc, il est là pour un besoin dans la société, par une assimilation. Ceux qui achètent s'assimilent un peu à l'art de Ben, le comprennent, l'admirent, etc. Donc, c'est parfait ce qu'il fait. Mais son narcissisme n'est pas, je pense pas, tellement supérieur à celui de beaucoup d'autres artistes qui peuvent exprimer le point du i d'autre manière que par juste un graphisme.
Je pense même que Ben n'est pas frivole.
L'art, finalement.
Qu'il est très sérieux dans son art et qu'il a donc eu un aboutissement reconnu, enfin aujourd'hui largement quand même par un public, enfin qui l'achète et qui le met en musée. Ce discours par lui-même n'a pas beaucoup de signifiant. Il est où il n'est que signifiant.
Mais justement, mais à propos de signifiant, ça me donne envie de revenir au tout début de notre discussion, quand on en a parlé. Est-ce que sujet peut finalement devenir ou être objet? Et justement, le terme que j'ai envie, presque irrésistible, d'appliquer à l'art contemporain, en tout cas celui dont on parle à nos jours, c'est le style de subjectivité objectale. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est la post-existence, l'art post-existentiel. L'existence n'a plus de valeur. Hein. En revenant à mon propos de la mort de l'être, hein, et précursé par Nietzsche, il y a de l'essence là-dedans.
Alors, je pensais qu'il y avait surtout que l'art ne se définissait aussi par ses effets. Il faut qu'il y ait des effets. L'art est à partir du moment où il a des effets sur les gens, sur un certain nombre de personnes.
C'est très simple, je suis entièrement d'accord avec vous. L'art, c'est quelque chose de très simple. Il y a une représentativité à partir du moment où des groupes d'individus y adhèrent et qu'il y a un rassemblement et des discussions autour de cet art, dont Ben d'ailleurs, je pense que ces artistes-là créent une propre culture, créent des épiphénomènes de culture, et ce sont l'ensemble de ces épiphénomènes de culture qui créent l'art en général, et la culture en général. Ce sont, je dirais même plus que ces artistes-là, je dirais même plus loin, je dirais, ce sont des producteurs de culture, parce qu'ils font.
Mais sauf que Narcisse, il ne communique pas, à part avec lui-même.
Alors justement,
c'est un vieux débat, Narcisse. Oui, je pense que la société a beaucoup plus évolué.
Justement, on revient au narcissisme. Je voulais vous donner l'exemple d'Edouard Aucac. Oui. Edouard Aucac, donc, qui a fait énormément parler de lui, parce qu'il avait demandé à un laboratoire de
biologie moléculaire.
Biologie moléculaire. Et il avait demandé à ce qu'on crée une race de lapins. pas une race de lapin, qu'on crée un lapin. Donc il avait créé Alba la lapine, et Alba la lapine avait été modifiée génétiquement avec un gène de méduse.
Oh.
Et celle-ci possédait donc la particularité de renvoyer sous la lumière ultraviolette une faible lumière vert fluorescente. Alors qu'est-ce que faisait, quelles étaient les intentions d'Edouard Oukak? C'était en fait de se présenter avec la lapine dans des expositions, lui et la lapine, comme dans un tableau pastoral. En fait, c'est un tableau domestique de la France. Donc, il se présentait avec la lapine. Et pour lui, c'était la présentation de deux êtres uniques.
Oh, je trouve cet exemple complètement génial. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et du coup, ça fait penser.
Non, c'est un. Il y a un excellent rapport en fait, parce que il y a un courant, enfin entre la mort de l'art avec le nouveau commencement, et là on entre dans un milieu moi qui m'intéresse beaucoup, enfin qui est dans l'art contemporain, qui est peut-être le plus absent, mais qui est vraiment très intéressant, enfin comme nous le dit enfin aujourd'hui, enfin Marion, c'est justement le rapport entre l'art et la science, parce que entre l'art et la science, je pense qu'au XXe siècle, enfin, et puis maintenant, la science a beaucoup évolué, et a évolué plus que l'art. Parce que la société, en fait, elle a évolué, mais dans le monde de la communication. Hein. C'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure, entre ce qu'on appelait l'art moderne, et puis le monde de la consommation, et puis l'art contemporain, qui est celui du monde de la communication. Mais le rapport entre art et science, à mon avis, pourrait être une étape supplémentaire pour l'avancée de l'art, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est la science qui est en avance sur l'art, et notamment en astrophysique, et puis en physique et en biologie, aujourd'hui.
Mais est-ce que ça peut être mesuré? Je ne vois pas comment on peut mesurer avancée de la science et avancée de l'art. C'est comme tout à l'heure la psychanalyse. Je ne vois pas comment, quelles seraient les échelles qui nous permettraient de mesurer l'avancée de la science en la comparant à l'avancée de l'art. Parce que chacun avance, mais c'est pas corrélé, me semble-t'il. Je ne vois pas comment tu peux faire.
Ou sinon, il faut faire les références à Jean Baudrillard, qui leur accordait exactement la place opposée de point de vue vectoriel. Hein, c'est-à-dire là où la science avance, l'art dégrade.
Une sorte de capitalisme cognitif.
Ah,
ou alors,
qu'est-ce que ça veut dire?
Où les connaissances créent des connaissances, où du vivant crée du vivant, comme disait Bouton. Oui.
C'est comme ça que tu
par opposition au capitalisme industriel. Et on peut s'apercevoir que la force d'invention devient supérieure à la force de travail.
C'est peut-être pas faux.
Après, il y a le rapport de la science à l'objet. C'est-à-dire que la science, elle doit toujours chercher distinctement son objet. Et que l'art, lui, rentre plutôt dans un monde virtuel où la réalité échappe complètement, n'existe pas du tout. Tandis qu'il y a toujours un effort désespéré, bon je le dis sans guillemets, de la science à trouver son objet. Et donc c'est à travers les grandes questions de la science que l'on voit qu'il y a une évolution qui est supérieure à celle de l'art. Et qui n'est pas sa place dans l'évolution de l'histoire en général, parce qu'on a toujours considéré que l'art était une anticipation de la société à venir. Il me semble qu'aujourd'hui, que les grandes questions, par exemple en astrophysique, par exemple sur l'interrogation du Big Bang, de l'expansion de l'univers ou non, de savoir est-ce qu'on peut partir du rien pour arriver à quelque chose, ces grandes questions ne sont plus interrogées par l'art et sont fondamentalement posées par la science, à notre époque, au XXIe siècle. Et que peut-être ce rapport entre art et science, et peut-être l'art contemporain, enfin de demain, avec un virtuel qui, lui, est très narcissique, parce qu'il ne rend compte que des perceptions internes de l'individu, tandis qu'avec, comme des forcenés, les scientifiques chercheront toujours l'objet à connaître. Toujours. Et l'art, peut-être, a oublié. Il n'y a plus de champ à peindre, parce que tout a été peint, parce que la photographie a été inventée, parce que tout est représenté, et qu'aujourd'hui, dernier refuge de l'artiste, c'est ses propres sensations. Le scientifique reste persuadé, toujours, de l'objet à voir clairement et distinctement, pour revenir à Descartes.
Ça, c'est une opposition entre deux types de sensibilité, mais les signaux de demain sont des signaux nouveaux que, évidemment, il n'est pas facile de percevoir, mais qui les jeunes générations d'artistes, effectivement, s'ingénient à créer, à inventer, et qui ne sont pas facilement reconnaissables, mais ça évolue énormément.
Il est difficile d'anticiper l'anticipation.
Voilà, tout à fait.
Tout à fait, c'est qu'une idée. C'est la place de l'art, ça a été quand même toujours cette anticipation de montrer Dieu, par exemple.
Exactement, comme a dit, vous dit Alain, il n'y a pas longtemps, je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là où j'ai décidé de passer mes derniers jours.
Oui, mais vous ne vous éloignez pas un peu du narcissisme avec l'art contemporain.
En
là.
Parlant de Woody Allen, non. Certainement pas.
Parce que, en fait, ce que cherche un artiste, un champ de coquelicots, ça sera toujours un champ de coquelicots. Mais vu par différents photographes, le champ de coquelicots, il ne sera jamais pareil.
Tout à fait.
Vu par un artiste, il aura toujours une signature qui fait qu'on reconnaît que le champ de coquelicots a été peint par un tel ou par un tel ou par un tel. Quel est l'intérêt au siècle des Lumières, on avait Poussin et on avait, on avait plutôt Watteau et compagnie, mais ils n'en avaient rien à faire de l'avancée spectaculaire des sciences à cette époque-là.
Oui, mais ils avaient pour eux une parfaite représentation de la nature. Il n'y avait même pas à parler de style, il y avait à parler de perfection et d'esthétique. Et donc le style vient après, mais ils savent représenter à l'époque, un champ qui est vraiment une réalité. C'est-à-dire que l'artiste anticipe et dit « je peux dépasser, à l'époque de Poussin par exemple, je peux dépasser mes propres perceptions et arriver à peindre la réalité ». Donc ça, c'est une anticipation qui a disparu aujourd'hui.
C'est pas tout à fait vrai, puisqu'on reconnaît quand même à vue de nez... C'est un Watteau.
Bien sûr.
Chaque artiste aujourd'hui a interprété d'une façon très personnelle la nature.
Bien sûr, aujourd'hui, on peut le dire.
Il y a une époque très éloignée qu'on essayait de la... Et encore, les perspectives changeaient, selon tout un chacun. Mais tous les artistes ont interprété la nature à leur façon, sans jamais vouloir forcément la reproduire comme telle, avec sa perfection et tout ça. Sauf à une époque très, très, très lointaine. Où,
non, il y a le... Comment ça s'appelle? L'hyperréalisme.
Alors, il y a l'hyperréalisme.
C'est autre chose, oui.
Mais c'est encore une transgression de la vraie nature, parce que les proportions, les formes, les couleurs, il y a encore dans l'hyperréalisme une modification des perceptions. Donc mais la nature n'est jamais représentée comme telle aujourd'hui, et même depuis assez longtemps, parce que, je veux dire, les approches sont très différentes.
C'est là d'ailleurs qu'est l'art, c'est que c'est jamais comme tel.
Voilà.
Et quand on se regarde dans le miroir, on sait très bien que c'est le miroir et que c'est pas soi-même. Enfin, je veux dire, même si on voit quelqu'un et l'image parfaite, c'est jamais... Il y a toujours un décalage et c'est là qu'est l'être et le sujet, effectivement. Mais bon, c'est là aussi qu'on peut être... Que ça a un effet sur nous, c'est dans ce qui échappe.
Alors ça, oui, je trouve que c'est une belle plaidoirie en faveur de l'art contemporain, ça.
Oui, mais l'impressionnisme, par exemple, fait la coupure, quand même, en disant « l'artiste, pour la première fois, échappe à la réalité, passe à une perception enfin, de lui-même, mais échappe à la réalité ». Si on prend les dessins de Durer, si on prend les dessins et les peintures de Rembrandt, ils atteignent une perfection, et là, on ne parle même pas de style, mais on arrive à une perfection dans l'esthétique. Du beau, du bien représenté.
Sauf que si on...
Les impressionnistes choquent ensuite.
Oui, mais on se demande pourquoi Jérôme Bosch ne nous choque pas pour autant. Parce que la réalité de Jérôme Bosch est quand même impressionnante par rapport à la réalité réelle.
Donc... Oui, et en même temps une dimension imaginative. Mais une dimension aussi qui est de l'ordre du réel dans l'imaginatif, c'est-à-dire du bien représenté.
Le réel, c'est l'impossible. Donc c'est peut-être ça, effectivement, que les gens cherchent à atteindre, mais c'est l'impossible. Donc c'est
exactement, c'est ce que Jérôme Bosch a réussi de représenter d'une manière perfectionnée à la perfection. C'est-à-dire sa représentation est horriblement réelle, mais des choses qui sont complètement irréelles par définition.
Mais l'artiste, justement, a toujours essayé d'aborder, d'approcher le plus possible. Il est impossible à atteindre. Oui. Il a toujours essayé d'approcher la réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il le fait ?
Sa réalité.
Et oui,
que lui-même. Sa réalité, jamais
il,
la réalité.
Il essaye peut-être de s'approcher de lui et d'entrer en relation avec l'autre.
Peut-être qu'on peut le dire aujourd'hui, mais pour lui, à l'époque, il était persuadé d'approcher la réalité.
Mais aujourd'hui aussi, c'est la même chose.
Voilà.
Il y a pas de...
Et aujourd'hui, ce n'est plus l'artiste qui essaie d'aborder la réalité. Je crois qu'il considère qu'elle n'existe plus, par exemple. Il peut y avoir d'autres écoles. Il peut y avoir des écoles constructivistes dans l'art qui, justement, font quand même cet effort d'aller vers l'objet et de le représenter. Elle existe même dans l'art contemporain.
C'est l'objet comme prétexte.
Oui, mais le scientifique, lui, n'a pas abandonné cet objet à définir.
Je pense que les êtres sont fondamentalement différents suite à l'évolution génétique qui fait que la race évolue, leur cerveau évolue, leur perception évolue, ils perçoivent leur monde tout naturellement de façon extrêmement différente et ils essayent, s'ils ont l'état d'artiste, de représenter ce monde selon l'évolution de ce corps, de
l'environnement.
De l'environnement qui est aussi... Voilà, et c'est pour ça qu'on a tout un tas de représentations différentes et qui seront jamais identiques. Et ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est de se dire que si à certaines époques des artistes avaient un succès d'estime, on s'aperçoit aussi, parce que là on va tomber dans des choses un peu plus vénales mais pas inintéressantes, c'est que il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui quelques artistes contemporains complètement nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont pas 30 ans ou 40 ans d'existence, ou un peu plus pour Andy Warhol et tout ça, eh bien, leurs œuvres sont tellement prisées par le monde entier qu'elles valent 100 fois, 1000 fois plus cher que les œuvres les plus extraordinaires de tous les peintres de tous les temps. C'est une bonne question. Ça veut dire qu'ils ouvrent aujourd'hui des champs d'investigation qui sont tellement réels par rapport aux gens qui habitent notre univers, cette représentation est tellement forte que pour les gens qui les achètent, et même pour les critiques qui en parlent, et pour tout le monde de la culture dans lequel sont plongés ces artistes, eh bien, ils ont représenté des réalités telles que tout le monde va se les arracher. Et que, par exemple, Andy Warhol a une cote absolument infernale, que toute la jeune garde américaine, Newman, Jasper Johns, tout ça, atteignent des prix qu'aucun artiste ancien n'aurait pu espérer avoir de son époque. Parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à des signaux de reconnaissance auprès de la société qui sont tels, que cette société-là veut se les arracher et que ça n'a pas de prix. Et ça, c'est intéressant dans votre réflexion de voir que cette adhésion de ces artistes et de leurs œuvres à notre époque est bien réelle. Sinon, il n'y aurait pas une telle surenchère.
Mais tout a un prix. Oui. Et puis, il y a le musée où les œuvres ne sont plus à vendre. Et je pense que si, dans les années 70, aujourd'hui, on se les arrache et qu'ils valent aussi cher, c'est parce que le rôle de l'argent aussi avec l'art est différent. Et que l'argent, lui, n'est pas virtuel, mais il faut qu'il tourne, il faut que les œuvres se tournent, se vendent, et puis se vendent plus cher. Et que là, on est dans un circuit d'argent qui est parfaitement en accord avec notre civilisation, et pas avec les civilisations antérieures, des œuvres qui représentaient le sacré, qui sont aujourd'hui dans des musées, et qui, elles, n'ont pas de prix.
On va terminer ici. Je voulais juste donner un mot de conclusion. Ça a été tiré du catalogue de la Biennale de 2006 de Paris, qui écrivait sur l'artiste contemporain, qui peut s'exposer partout, de la galerie au musée, en passant par les 300 biennales existantes en France. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de lieu qui lui soit, pour ainsi dire, inaccessible. Et donc, d'où un narcissisme exacerbé dans lequel tombent la plupart des artistes contemporains en disant « Je suis partout ». Voilà.
Pour toujours,
merci Marion.
Merci.
Bien, c'était donc une émission sur l'art contemporain et le narcissisme. Je vous remercie tous. À très bientôt. Autre radio, autre culture. Au revoir.
Au revoir.
Autre radio, autre culture.